Le bec du toucan était un régulateur thermique comme la langue du chien.
Ouais, mais j'avais oublié et tu l'as rappelé, donc voilà. Merci.
Je pense que je pourrais laisser ça au début du podcast.
Si jamais ça a marché. Le bec du toucan.
Bonjour Fabien.
Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Merci d'avoir ouvert les portes de ton chez-toi pour enregistrer un petit bout de conversation ensemble.
Avec grand plaisir.
Ça fait plaisir d'être là et ça fait plaisir de pouvoir discuter un peu de ton livre, en fait. J'avais envie de mettre un focus là-dessus. On avait déjà discuté une fois dans un podcast où c'était complètement ouvert. On avait parlé un peu de plein de trucs croisés.
Ouais. Je pense que là, ça pourrait faire
pareil, mais c'était un petit moment. C'était au même endroit, d'ailleurs. On était sur la même enquête. Mais là, du coup, j'avais envie de faire un petit focus sur ton livre, notamment parce que je l'ai lu, que je l'ai trouvé cool. Ça m'a activé quelques réflexions et quelques questions. Et puis aussi parce que je trouvais ça sympa de faire un peu de contenu sur ton livre parce que je l'ai bien aimé et que je trouve que, mine de rien, c'est un objet qui est intéressant à être partagé dans les formats que tu as prévu, toi. Hyper création. Voilà. C'est celui-là. Ça va sur la caméra? Plus près? Voilà. Nickel. Je me suis posé la question dès le départ. Et je ne te l'avais pas posé avant, et du coup, ton livre Hypercréation, tu l'as écrit avec qui en tête comme lecteur à la base? Est-ce que tu savais pour qui tu l'écrivais ou...
C'est une super question. C'est une super question parce que c'est mon premier livre. Et donc, quand tu écris un premier livre, tu ne sais pas du tout ce que c'est un public, en fait. Donc, quand je l'ai écrit, je suis passé par plein de phases, tu vois. Je suis passé par des phases où je me disais, je veux faire un livre plutôt... Enfin, moi, je lis énormément de philosophie, de science, des livres qui sont pas forcément grand public, qui s'adressent des fois même à des spécialistes, etc. J'adore ce type de littérature. J'aime bien plonger dans des univers techniques, tu vois, lire un bouquin sur la théorie du chaos, mais un truc vraiment poussé, tu vois, et me faire un peu des nœuds au cerveau pour essayer de comprendre tout ça. J'aime bien. Et j'ai beaucoup de respect pour ce type de littérature, en fait. Donc, quand j'ai commencé au tout début à l'écrire, j'avais un peu en tête, ouais, je veux faire un bouquin un peu philosophique, qui soit assez sérieux, tu vois, il y avait cette volonté d'écrire un peu pour des intellectuels, presque. Et en fait, en l'écrivant, il y a plein de moments où, au contraire, je me suis projeté dans le fait que ça soit du grand public qui le lise. Des fois, du coup, pas du tout du grand public, des fois plutôt des scientifiques, des fois plutôt des philosophes. Enfin, j'avais plein de types de publics en tête qui correspondaient plus, en plus plutôt à des espèces de fantasmes type de public, pas vraiment à des vrais publics. Mais en même temps, ça drivait un peu mon écriture, donc ça aide. Et en plus, j'avais pas l'habitude du tout d'écrire avec du public en tête parce que, avant ce bouquin, si j'écrivais depuis longtemps, j'écrivais plutôt par exemple de la poésie que j'écrivais pour moi. C'était une écriture intime, on va dire. Donc là, tout d'un coup, cet exercice d'écrire pour être publié, pour des gens, tout ça, je ne savais pas faire. Et honnêtement, dans mon premier manuscrit, il y avait des parties qui étaient vraiment vulgarisées pour du grand public et des parties où tu plongeais dans des trucs de sciences cognitives un peu brutes de décoffrage, quoi. Et où tu te dis, si tu regardais le truc de l'extérieur sans être moi qui avais pensé ces deux niveaux-là dans le livre, tu pouvais dire, waouh, qu'est-ce qui se passe, comment il se positionne. Donc là, d'une part, le lien avec l'éditeur est absolument fondamental. Mon éditeur, qui est absolument génial, m'a vraiment accompagné dans l'écriture. Il m'a fait grandir en tant qu'auteur, à la fois sur des éléments plutôt de plume, de style, et à la fois, en effet, sur le positionnement du livre. Et en fait, il m'a surtout questionné sur pour qui je voulais l'écrire, et il m'a amené vraiment à me dire, OK, quel public j'ai en tête et où est-ce que je veux amener le livre. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'importait le plus, c'était d'avoir un livre, certes, de bon niveau intellectuel et qui ne raconte pas des conneries et dans lequel tu as l'impression, quand tu le lis, j'espère un peu plus intelligent à la fin, mais qui s'adresse quand même au grand public. Et c'est là où, du coup, j'ai beaucoup travaillé ma plume pour aussi faire en sorte d'avoir une écriture plus fluide, de passer par plus de storytelling. Je ne sais pas si tu te souviens du premier chapitre du livre, mais dans le premier manuscrit, t'entrais par du conceptuel, par une espèce d'historique de ce que c'est la créativité, des définitions, etc. Là, t'entres dans le bouquin, bam, t'es dans un polar, on te raconte une histoire, c'est Lycédol versus AlphaGo, cette partie de Go assez incroyable, et j'essaye de la raconter, tu vois, pour mettre du suspense, pour que tu aies envie de savoir ce qui se passe, pour que quand tu as la chute de cette petite histoire qui arrive, ça t'ouvre plus de questions que ça, enferme, et donc que tu aies envie ensuite, grâce à cette entrée très storytellée, d'accepter une petite dose de conceptuel qui va te permettre ensuite de comprendre pourquoi cette intrigue s'est déroulée de cette façon-là. Et tout le livre, du coup, ensuite, dans le deuxième manuscrit, je l'ai un peu réorganisé et reformulé pour que je garde ce fil rouge conceptuel et intellectuel, intelligence artificielle et créativité, où voilà, y a des questions de fond, philosophiques, scientifiques, qu'il fallait traiter avec de la profondeur et de la rigueur, et en même temps que tout ça soit encapsulé dans de la fluidité, dans du storytelling, dans quelque chose qui soit beaucoup plus... tu vois, que tu puisses lire sur la plage, il a la couleur du sable. Tu peux lire sur la plage, à la fin de ta lecture, j'espère que tu auras envie d'en discuter avec ta famille, il dira, putain, il y a cette idée, j'y avais pas pensé et tout, et que ça amène à des échanges intéressants, mais que tu puisses te dire, j'ai hâte d'être demain sur ma serviette pour continuer la lecture. Et pas que tu te dises, bon, demain, il va falloir que je continue la lecture parce que je me suis dit que j'arriverai au bout de ce bouquin et c'est un sujet important, je me force. Que tu aies envie, tu vois. Comme tu peux avoir envie de continuer ton bon roman. Quoi. Ouais, ouais. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu as ressenti dans toi, en tant que public, dans la lecture, cette volonté plutôt de fluidité, du côté easy reading, tu vois, mais le bon côté, j'espère, du easy reading, tout en gardant un aspect conceptuel un peu profond. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu as ressenti. En tout cas, c'est moi ce que j'ai essayé d'apporter.
Moi, pour le coup, tu vois, j'ai vraiment senti le côté d'écriture grand public.
Ouais.
Par justement, comme tu dis, le fait que tu plonges un peu dans une écriture romancée. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt agréable parce que justement, tu te laisses porter. En fait, je trouve que c'est un type d'écriture où du coup, tu te laisses porter parce que c'est une histoire, donc du coup, ça déroule. Et en même temps, du coup, tu fais passer le lecteur par un peu tout l'historique de l'intelligence artificielle, quoi. De toutes les étapes un petit peu historiques de ce qui s'est passé. Donc, sur ce plan-là, je trouve que c'est là où c'est ultra ouvert, ultra grand public. Tu vois, c'est que ça permet aussi de remettre un peu au niveau n'importe qui serait pas vraiment renseigné sur le sujet ou qui potentiellement aurait ses biais de perception par rapport au sujet ou tu vois, des trucs en décalage. Donc il y a cette couche-là.
Okay.
Qui est du coup agréable et qui se dit très bien. Et en même temps, comme tu dis, c'est cool que tu as réussi à le faire, c'est d'arriver à avoir ton propos à toi de fond. Ta démonstration, entre guillemets, ton cheminement, qui soit intégré dedans, et que du coup, tu arrives à basculer entre, tiens, là, je vais vous parler un petit peu des concepts que j'ai de fond, et puis en même temps, hop, on va reprendre un peu la suite de l'histoire, entre guillemets, on repart, et puis après, on revient.
Carrément.
Ouais. Et tu vois, le premier truc sur lequel j'ai accroché, bon, après, c'est certainement parce que je suis aussi quelqu'un qui fonctionne bien, je suis designer, je fonctionne bien avec les schémas.
Alors, peut-être qu'on peut juste dire le sujet du livre.
Ouais, le sujet du livre, ouais, on peut le rappeler. Hypercréation. Je le dis moi en rapide.
Vas-y,
tu comprends. Ouais, très bien. Si j'ai capté le... Non, c'est en gros, petit manuel pour apprivoiser les cyborgs.
Cyborg, j'essaye de réinventer un peu le terme de cyborg avec une connotation plus positive, c'est C-Borg pour Creative Borg, mais prononcer cyborg.
Voilà. Et donc du coup, en gros, on va redécouvrir un peu toute l'histoire de l'évolution de l'intelligence artificielle et de l'évolution de la machine au final, avec un peu toutes les perceptions qu'on en avait pour en arriver sur une réflexion sur le mariage un petit peu que peut avoir l'intelligence artificielle avec l'humain et une sorte de réflexion sur la cohabitation qu'il y a. Et aussi l'autre trame, c'est justement qu'on n'est plus sur une logique juste de intelligence artificielle, mais on est sur une logique d'intelligence créative. Et donc, du coup, c'est là, après, où tu explores aussi tout le sujet autour de la créativité. Et donc, du coup, de la trame que je trouve de fond très intéressante, quand tu commences à parler de la créativité, je te laisse compléter après hein, sur le contenu du livre. Et du coup, cette créativité, après, t'interroges tu passes par la nature pour, au final, après, réarriver sur l'intelligence artificielle. Et là, ce cheminement, j'y reviendrai après, mais j'ai trouvé vachement intéressant.
Ok.
Il y a d'autres choses du contenu du livre que j'ai pas...
Voilà, l'intention du livre, c'est vraiment de parler de l'intelligence artificielle et de la créativité en posant un peu les questions. Est-ce qu'une machine peut participer à la créativité humaine? C'est évidemment oui, et si oui, comment? Et surtout, la grosse question de fond qui a lancé le projet du livre, c'est est-ce qu'une machine peut elle-même être créative? Est-ce qu'on peut dire qu'une machine est créative? Voire même, est-ce qu'une machine peut être plus créative que l'être humain? Et c'est là où moi, je trouve que y a une réflexion vraiment intéressante, parce qu'on a un peu l'idée que quelque chose qui nous différencie de la machine en tant qu'être humain, c'est notre créativité, on sait faire ce pas de côté, etc. Et en fait, dès qu'on se questionne un peu sur ce que c'est faire un pas de côté, ce que c'est être créatif, en fait, on se rend compte que oui, on peut le mettre dans la machine, et voire même, c'est nous, humains, qui sommes très biaisés, très enfermés par énormément d'expertise, de culture, d'habitude, qui fait que c'est difficile pour nous de faire un pas de côté, là où, en effet, certains types de machines peuvent le faire plus simplement. Donc, ça retourne le lieu commun. Et c'est là où il y a un point de vue dans ce livre. Ce n'est pas juste, en effet, un descriptif de l'histoire de l'IA, comme tu le disais, c'est un essai techno-philosophico-poétique, on va dire, avec vraiment la volonté de défendre une idée, d'amener un point de vue nouveau sur l'intelligence artificielle, en passant par toute cette historique, certes, mais avec toujours ce fil rouge un peu de « et la créativité dans tout ça ?» Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des machines? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour la créativité humaine d'arriver à ces conclusions? Et oui, en effet, il y a ce passage par la nature qui, au début, le tout premier manuscrit, j'avais un peu une évolution conceptuelle où je parlais d'abord, en effet, ce que c'est la créativité, ce que je fais toujours. Je montrais que, déjà, la nature peut être créative, que ce qu'on appelle l'évolution est un processus fondamentalement créatif. D'ailleurs, il suffit de regarder autour de nous toutes les espèces animales, végétales, du vivant qui existent, pour voir qu'il y a un foisonnement d'originalité et d'adapter qui est présent, et que la façon dont fonctionne le processus de l'évolution naturelle est en fait, comme je le décortique, un processus créatif. Et donc, passer par là, en fait, c'est à la fois, ça permet d'amener les premiers algorithmes créatifs qui ont été des algorithmes génétiques qui copiaient l'évolution, et en même temps, et surtout, de montrer que la créativité, c'est pas du tout le propre de l'homme. Ça peut s'exprimer dans des processus qui peuvent être en dehors d'un cerveau humain. Donc, montrer que la nature est une créative aveugle et que sans avoir forcément d'intention, d'imagination, d'idée, il y a un processus et des résultats créatifs qui émergent de sa structure, ça permet en fait de naturaliser justement la créativité, de la désanthropomorphiser pour pouvoir ensuite poser le socle pour en parler dans les machines en disant « bon, maintenant que ce n'est plus une caractéristique propre à l'humain, on va pouvoir commencer à réfléchir de façon plus générale » et on va pouvoir sortir des espèces d'enjeux émotionnels, de dire « la créativité, c'est à nous », etc., et commencer à réfléchir sainement à « est-ce qu'une machine peut être créative ?» et si oui, sous quelles conditions, et qu'est-ce que ça a comme impact, etc. Donc il y a en effet ce passage par la nature, et dans le premier manuscrit, ce passage à la nature, ensuite amenait un passage par l'humain, et ensuite un passage à la machine. Et c'était beaucoup trop didactique, trop lourd, et du coup, là, j'ai changé ça. On parle d'IA dans ce bouquin. Donc tout le long, ça parle d'IA. Même s'il y a un chapitre sur la créativité, il est connecté à la question de l'IA. Quand il y a un chapitre sur la nature, il aboutit à des algorithmes génétiques pour parler d'IA. Et ensuite, tout ce que je dis sur la créativité humaine est intégré dans la réflexion sur la créativité de la machine et comment les deux se répondent dialectiquement pour réfléchir, quoi, et pour développer cette pensée-là. Donc voilà, je ne sais plus qui était la question de base, mais ça permet.
Moi, ce qui m'a marqué aussi, mine de rien, parce que je n'avais jamais creusé dedans, pourtant je suis aussi dans le chemin de la créativité depuis un petit moment, mais je ne me rappelais pas que c'était si récent, le terme créativité. Ouais. Du coup, ça m'a pas choqué, tu vois, mais c'est le genre de truc, tu te dis, mince, mais il disait quoi avant, du coup?
Avant, en fait, il y avait plein de termes pour parler de la création. Il y a même eu plus de termes à certains moments pour le mot création qu'un seul terme. Mais il n'y avait pas l'idée d'un processus qui aboutit à la création. Pour penser un processus, il faut déjà être dans une pensée un peu scientifico-technique. C'est pas pour rien. Donc le mot créativité, il apparaît aux États-Unis au début du XXe siècle, en France dans les années 50, et il est accepté par l'Académie française dans les années 70.
C'est fou, tu vois.
Il y a 50 ans. Voilà. Donc le mot créativité en lui-même est un mot du langage courant depuis 50 ans. Il y a un jaillissement sémantique assez fou et très récent. Alors qu'aujourd'hui, la créativité est sur toutes les bouches, c'est une des compétences clés du XXIe siècle. Tout le monde parle de créativité, tout le monde... Il y a énormément de sujets qui tournent autour de ça. Tu as l'OCDE qui a sorti un espèce de traité qui s'appelle « La société créative du XXIe siècle ». Bref, c'est sur toutes les bouches alors que ça a 50 ans. Mais pour même si ça a toujours existé, hein, c'est juste le mot, mais ça, ça révèle quelque chose que le mot apparaisse. Et je trouve que c'est... Alors, y a plein de raisons qui font qu'à un moment, on a besoin de conscientiser les processus créatifs. On se met à les voir, la société évolue plus vite, donc le changement devient plus palpable. Donc, on a besoin d'élargir notre vocabulaire pour parler de ces phénomènes de changement. La créativité, ou même le mot innovation, en fait, qui, même s'il existe depuis l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, a été vraiment popularisé au XXe siècle avec Schumpeter, etc. Le mot innovation en lui-même, qui décrit plutôt le phénomène socio-économique du changement, c'est pareil, il est finalement assez récent. Avant, on avait le mot de progrès, qui était un mot politique, qui était un mot global et long terme, alors que l'innovation, c'est un mot court terme qui rend discible, palpable, des éléments qui se déroulent sur une vie humaine, voire sur un petit bout de vie humaine.
C'est peut-être le terme des inventeurs aussi, avant, non ? Il y a le côté invention.
Ouais, le terme invention existait, mais en effet, tous ces termes étaient plus de l'ordre soit du politique, soit du divin, que vraiment de l'ordre... techno-scientifiques qui essayent de mettre des mots précis et de décrire un phénomène. Donc, la création était... La création, je veux dire, avec un grand C, c'est lié au divin initialement, et, enfin, initialement dans nos cultures, hein, c'est l'acte fiat lux, la création divine, quoi. Le mot créativité n'a pas cette, cette connotation. Il se veut vraiment représenter un processus. Et pour ça, à mon avis, il fallait qu'on passe par... la révolution industrielle, ce genre de choses, même l'apport, par exemple, du taylorisme et du fordisme, qui veulent mettre en processus tous les phénomènes humains, parce que la vision de l'entreprise dans cette idée de rationalisation du travail, c'est une belle machine bien huilée, mais machine telle qu'on la voit au 19e siècle, pas telle qu'on la voit aujourd'hui au 21e siècle avec l'IA, les ordinateurs, etc. Une machine gros rouage et bien contrôlée, bien optimisée, où tout est à sa place. Donc, c'est un peu le projet du taylorisme et du fordisme, de faire de l'entreprise une machine de ce type-là, de la mettre dans une chaîne de production. Et donc, l'humain est mis en processus. Et donc, il fallait aussi passer par ce type de révolution cognitive, de se dire que l'humain peut être mis en processus pour qu'un mot comme créativité puisse apparaître qui met une réalité, entre autres humaine, en processus. Donc, en effet, un mot très récent et pour plein de raisons, je suppose. Je suis pas linguiste, je n'ai pas retracé exactement l'histoire du mot, mais dans le livre, j'explore quelques possibilités concernant le fait que ce mot soit apparu.
Et je trouve ça intéressant parce que du coup, moi, le truc qui m'était là, c'est que je me projetais, je me disais, mais attends, quand ils étaient au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, qu'il y avait un mec qui était peintre ou sculpteur ou quoi que ce soit, quand il parlait de son œuvre, tu vois, tu avais tendance à dire, waouh, là, je suis en train de découvrir quelque chose. Le mec, il est ultra créatif, quoi. Tu vois, le terme arrive comme ça. Et donc, du coup, je me disais, tiens, vu que là, il y a cette importance du vocabulaire pour arriver. Enfin, tu sais, le vocabulaire, c'est le reflet un peu de la pensée, c'est le reflet d'une époque, quoi. Donc, du coup, c'est comment est-ce qu'ils pensaient quand ils observaient des œuvres ou quand ils avaient un sentiment en disant, ouais, je viens de voir émerger quelque chose de. On verra un peu sur la définition que tu poses de créativité, ce que je trouve qu'elle est intéressante aussi. Mais tu vois, il y a ce côté assez fascinant.
Alors, un des éléments de réponse, c'est qu'avant la Renaissance, et même, je crois que c'est plutôt avant la Révolution scientifique, la valeur de l'acte créatif est entièrement contenue dans la création. Le fait qu'il y ait un être humain qui ait créé un truc, tout le monde s'en fout. Il n'y a que le vase qui compte, le potier ne compte absolument pas. Le potier est le moyen, mais c'est le vase qui a une valeur. Parce qu'il va servir, parce qu'il va être utilisé dans la société, etc. 100% de la valeur est contenue dans le résultat et le créateur s'efface complètement devant la création. C'est la création qui compte. Et donc, il n'y a aucune reconnaissance de l'acte en lui-même de créer. Il y a une reconnaissance uniquement du résultat. Ce qui, évidemment, va être complètement remis en cause par la révolution industrielle, puisque quand tu peux créer à la chaîne, tout d'un coup, le résultat perd de la valeur et c'est tout d'un coup le potier et son effort mis dans la production de son vase qui prend de la valeur. Le vase fait à la chaîne a moins de valeur que le vase du potier, même si le vase du potier est moins parfait. Parce que le potier prend de la valeur, le temps du travail, quand tu achètes un sac Hermès, il est d'un peu meilleure qualité que le sac Zara, je suis d'accord, mais ce que tu mets en avant socialement, c'est pas que tu as un sac de meilleure qualité. Ce que tu achètes, en fait, c'est les heures de travail. Y a 50 maroquiniers qui ont travaillé sur ce sac, tu vois. C'est vraiment le temps humain passé.
Parce qu'on valorise le processus. Enfin, sans forcément parler de processus, mais maintenant, on valorise le processus. Alors qu'avant, comme tu le dis, le processus était quasiment inconsidéré, quoi.
Complètement inconsidéré. Donc, on n'allait pas mettre un mot sur quelque chose qui n'était absolument pas... Faut se mettre à cette époque-là, en fait. On se foutait complètement de la façon dont ça avait été créé. Comme de toute façon, pour créer quelque chose, c'était un humain qui devait faire un travail. Mmh. D'ailleurs, les arts et métiers... Ça s'appelait les arts et métiers. Tout ce qui était de l'ordre des arts, c'était en fait de la technique qui permettait de faire un métier. Ce n'était pas quelque chose de valorisé comme l'artiste qui a un contact divin et les muses lui mettent quelque chose dans la tête et il est
l'élu. Oui, il y avait juste une commande d'un mécène ou de quelqu'un.
Ça, c'est le romantisme qu'il a apporté.
Il voulait un truc et au final, il l'avait et il ne réfléchissait pas autant que l'artiste ait pu passer ou quoi que ce soit. Quoi. C'était
vraiment... Et au processus que l'artiste avait mis en œuvre. Le processus, en fait, était entièrement contenu dans la technicité. Du gars. Donc, le potier qui faisait des vases les plus parfaits possibles, bon, bah, il avait la meilleure technique, c'était le meilleur artisan, comme il y aurait eu le meilleur cordonnier, etc. Et donc, on reconnaissait sa valeur technique. Donc, c'était un très bon technicien, un très bon homme de l'art, mais c'était pas un créatif. En fait, faire une magnifique peinture, c'était pas un acte créatif. T'es peintre, t'es pas plus créatif que le cordonnier. C'est juste que... tu fais un autre type de production, mais c'est la production qui compte. Et donc, il faut attendre, en effet, je pense, la révolution industrielle pour que tout d'un coup, la valeur de l'objet s'effondre parce qu'on peut le reproduire grâce à la mécanisation. Et tout d'un coup, en plus, le romantisme passe par là et fait croire que le créatif a un contact avec le divin. Il réactive une espèce de mythologie ancienne, le romantisme, la mythologie de la création divine. Mais il dit, l'humain, il a le pouvoir divin, comme il est à l'image de Dieu, il a cette espèce de pouvoir divin d'être habité par les muses qui descendent tout droit du ciel et de pouvoir créer quelque chose avec l'inspiration divine. Et donc là, on ne parle pas encore du processus créatif chez les romantiques parce qu'il est mystérieux, il est de l'ordre du mystère divin, et il ne faudrait surtout pas le rationaliser sous peine de perdre le merveilleux qu'il contient et donc la valeur mystique du poète, de l'artiste, etc. Et puis, il y a la révolution scientifique qui arrive et qui dit... l'objet, on s'en fout. La valeur, c'est dans le temps passé. On a besoin de capitaliser sur quelque chose. Donc, s'il n'y a plus de valeur sur le résultat, on va mettre de la valeur sur le créateur. Ça va permettre de créer un marché de l'art, un marché de l'artisanat traditionnel, etc. Le capitalisme a cette capacité à créer des marchés surtout. Et on va mettre le processus créatif. On va rationaliser le processus créatif. Tu as l'apparition au XXe siècle du brainstorming. T'as des gars qui comme Paul Guilford, qui est un psychologue, il va dire, la créativité, la capacité à générer des idées est exactement comme la capacité à générer des pièces sur une chaîne de production. Il suffit d'avoir les bonnes étapes et la bonne machine de production et t'auras tes idées. Et c'est dans cette mouvance-là qu'est créé le brainstorming, par exemple, qui essaye de rationaliser l'exercice de créativité, qui est très mal compris aujourd'hui, mais l'idée au départ, c'est ça, c'est d'en faire, de mettre ça dans un diagramme, en fait.
D'arriver à optimiser la production d'idées ou d'inspiration pour derrière...
Optimiser
la valeur de la chose. Quoi.
Et en même temps que ça sert les intérêts capitalistes et industriels, on peut être un peu désillusionné de cette rationalisation de la créativité, en même temps, ça va ensemble, ça permet scientifiquement de parler de la créativité et de... casser, de créer une espèce de blessure narcissique pour l'humain en cassant son espèce d'orgueil d'être la créature de Dieu et d'être au-dessus du monde parce qu'il peut être créatif, ce qui est un orgueil malheureux. Et la science a beaucoup fait reculer les orgueils humains. Non, on n'est pas au centre de l'univers. Non, on n'est pas au sommet de l'évolution. On n'est pas au contact de Dieu par notre créativité. La nature est déjà créative. Des machines peuvent être créatives. Et il faut qu'il y ait un discours à un moment rationnel sur la créativité pour permettre à cet orgueil-là de se désintégrer. Donc, c'est un peu toute rationalité a un peu cette double casquette. À la fois, ça permet une puissance qui est souvent mise au service de la création de valeur, de l'économie, de l'industrie. Et en même temps, ça crée une non-puissance à l'intérieur même de la puissance que ça nous donne. Ça crée une non-puissance, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas spéciaux. Et que, du coup, il y a un orgueil philosophique qui tombe. Et donc, il y a toujours ce mouvement ambigu de la science qui permet de continuer une société industrielle qui, aujourd'hui, a montré ses limites et va plus, et en même temps, permet de repenser notre humanité et donc potentiellement d'ouvrir des voies plus nobles, je dirais presque, pour penser l'humain, quoi.
Le deuxième truc qui m'a bien marqué, c'est l'un des trucs que j'aime bien parce que c'est ultra simple, mais justement sur ce sujet de la créativité, c'est la décomposition que tu en fais avec le petit schéma.
Ouais.
Je vais le remettre devant la caméra.
Schéma AO.
Voilà, c'est ça exactement. Le schéma.
Ouais, tu pourras même l'incruster.
Ouais, je le mettrai.
Si tu veux, je t'enverrai l'image.
Et parce qu'en fait, du coup, comme je disais, moi, ça fait un moment que je suis aussi dans tous ces sujets de créativité. Quoi. Mon job, à la limite, même si c'est pour régler des problèmes ou transformer un fonctionnement d'une organisation ou fonctionnement des équipes ou quoi que ce soit, il y a toujours cette question de se dire à quoi est-ce que les gens sont prêts ? À quoi est-ce que moi, je suis prêt par rapport à cette situation-là ? Et la manière dont tu présentes les choses qui ont émergé. Et du coup, en fait, je baigne là-dedans. Mais comme on l'explique depuis tout à l'heure, c'est un processus et du coup c'est aussi une conscientisation de ce processus et une manière de le décomposer pour le voir clairement. Et j'avais pas forcément fait ce processus là de décomposer le processus de la créativité, et là toi du coup cette petite réglette AO m'a bien parlé, parce que en effet déjà le premier point, et après je te laisse compléter mais comme ça je verrai si j'ai bien compris, le premier point déjà c'est de se dire qu'en fait il y a une émergence, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Et c'est là où, du coup, on en arrive sur un point que je trouvais génial, même par rapport à ce que tu dis là, c'est que romantisme, on part du principe, du coup, qu'il y a une connexion à Dieu, et que, du coup, Dieu, à travers l'homme, il y a des choses qui vont émerger, mais qui viennent du divin à travers l'homme. Et donc, du coup, il faut forcément que ça passe à travers l'homme, quoi. Alors que quand, par exemple, tu montres que la nature est un processus où il y a toujours de la nouveauté, toujours de l'émergence, ce qui est vrai, que derrière, du coup, l'intelligence artificielle, au final, ça n'est qu'une autre expression du vivant qui est capable aussi de faire émerger des choses nouvelles. Du coup, on en revient vraiment sur un truc qui, moi, me paraît essentiel, c'est ça, c'est se dire, en fait, on fait partie de quelque chose qui est la vie, le vivant, où, en fait, l'un des fondamentaux, c'est qu'il y a continuellement une émergence de nouvelles choses.
Si on veut vraiment remonter jusqu'au bout, en fait, déjà, le vivant en lui-même, c'est un mot qui n'existe pas. La vie n'existe pas. Mmh. C'est une continuité parfaite de la matière. Et le grand calcul de l'univers, si je le dis en ces termes, puisqu'on parlait un peu de rationalisation, ou simplement le grand déploiement de l'univers, ne donne pas une place spécifique à la vie, en fait. Il n'y a pas un moment où il y a quelque chose qui fait basculer l'être dans le vivant. On passe de la matière inanimée à ce qu'on appelle la matière animée de façon complètement continue. Tu as les virus au milieu qui, on ne sait pas trop si on les appelle vivants ou pas. Si tu essayes de caractériser le vivant, un virus informatique ou plein de programmes informatiques sont considérés comme vivants. Ah, ça nous chiffonne un peu. Tu prends certaines molécules qui n'ont pas l'air vivantes, elles ont toutes les caractéristiques du vivant. Tu prends certains trucs qui ont l'air vivant, mais ils manquent des caractéristiques du vivant. Donc en fait, le vivant, c'est un mot qu'on a mis sur aucune réalité. C'est un mot philosophique, c'est pas un mot scientifique, le vivant. Les systèmes auto-organisés, dissipatifs, ça, c'est un mot qui décrit une réalité, tu vois. Il y a certains systèmes qui ont certaines caractéristiques. Mais le vivant en lui-même, on a là aussi une mythologie romantique autour du vivant. Pour moi, le vivant s'inscrit complètement dans le déploiement global de l'univers, et le déploiement global de l'univers a une double tendance, celle de l'ordre et du désordre, l'entropie et la négantropie, et c'est ça, finalement, fondamentalement, qui permet de décrire comment l'univers se déploie. Et à des moments, du coup, dans l'univers, t'as des bulles où il y a plus d'ordre, et donc dans cet ordre, il y a des trucs qui apparaissent qui sont plus nouveaux qu'avant, et donc il y a une sorte de créativité, mais qui est une créativité même de la matière, en fait. La matière elle-même contient cette possibilité créative parce qu'elle est capable de s'organiser quand il y a de l'énergie. Et donc, en s'organisant, elle crée des choses nouvelles. Parmi ces choses nouvelles, il y en a qui ont certaines caractéristiques. Il y en a une qui est apparue à un moment qui a l'air d'avoir un fonctionnement un peu original, c'est le cerveau, qui à un moment est capable de se poser toutes les questions qu'on se pose, et donc de mettre des mots sur tout ça, et qui invente le mot vivant, le mot humain, pour se définir comme séparé du reste, alors qu'il y a une continuité en fait très assez parfaite, quoi, et que la créativité, là j'en parle vis-à-vis de l'évolution du vivant, mais ça m'est arrivé de donner des conférences plutôt vraiment orientées philo, où je fais remonter ça encore plus loin. Tu fais remonter ça à vraiment les fondamentaux de la physique, en fait. Dans les fondamentaux de la physique, il y a déjà inscrit la possibilité de l'acte créatif, en fait. Simplement parce qu'il y a un déploiement avec de l'énergie.
C'est exactement le cheminement qu'a fait mon cerveau, mine de rien, quand j'étais sur ça, sur cette logique de nouveauté, qui fait que du coup, je me dis, bah, déjà, le vivant en soi, je te reviens sur ça, c'est que moi, je me dis juste qu'on est dans un truc qui est en soi vivant, mais voilà, c'est comme si c'était une seule entité vivante qui est l'univers.
Ouais, à la limite, voilà. Si vraiment on est dans...
Ou une conscience intergalactique, universelle, totale, enfin, je ne sais pas ce que c'est, tu vois, mais je pourrais pas décrire.
Tu peux appeler ça temps, vivant ou conscience. Les trois termes ont une espèce de signification commune qui est celle du déploiement de quelque chose.
Voilà, c'est ça. Ouais, il y a un truc qui se déploie et qui s'étend, enfin, qu'on imagine, parce qu'on dit que ça s'étend, alors qu'en fait, c'est à l'infini, c'est peut-être déjà là, c'est peut-être plein, c'est peut-être vide, on ne sait pas. Mais bon, tout ça pour dire que du coup, il y a des évolutions, des expansions, et donc du coup, il y a des fois des choses qui vont s'ordonner, des fois ça va se désordonner. En fait, c'est juste une manière dont l'énergie bouge. Et du coup, ça fait des formes qui vont être autres et qui n'ont peut-être jamais été là. Et du coup, moi, c'est un truc qui me fascine sur ça, sur cette logique justement de nouveauté. C'est qu'il y a toujours, en tout cas nous, de notre perception humaine, on est toujours capable de pouvoir découvrir quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu ordonné de telle manière et qui du coup va nous paraître soit intéressante, parce que ça va nous stimuler. Donc du coup, on va pouvoir peut-être commencer à y connecter le terme de créativité dessus. Soit sinon, si c'est trop bordélique ou chaotique ou en dehors de notre culture ou de notre sensibilité, ben, on va juste dire, tiens, oui, bon, ça, c'est un truc, quoi.
C'est absurde.
Voilà, c'est absurde, quoi. Et c'est là où on en arrive justement sur cette réglette que je trouve vachement intéressante. Il y a cette nouveauté qui arrive.
Mais une nouveauté seule n'est pas créative. Elle a deux caractéristiques.
Voilà, c'est ça. C'est le côté de se dire, bon, il y a forcément derrière un humain qui va percevoir ça quand on est dans le contexte de la créativité, de la discussion sur la créativité, et donc un humain qui va percevoir cette nouveauté par rapport à son référentiel à lui, qui il est, dans quel contexte il est, les attentes qu'il a par rapport à tout ça. Il va soit trouver cette nouveauté comme étant originale, donc c'est l'extrême gauche de ta réglette, et des fois, du coup, par rapport à lui, son référentiel, ça va être trop original, donc ça va être ce que tu disais, l'action. Voilà, il va rien se passer, ou un peu, tu citais le côté des enfants, les comportements des enfants. Moi, j'ai ma petite de 4 ans, des fois, il y a en effet des comportements qui sont totalement absurdes, mais qui du coup, dans le contexte du fait que je suis son père et que c'est un enfant, je vais quand même le trouver intéressant, et voilà. Sauf si je suis fatigué, et là du coup, j'ai pas envie. Tu vois, ça demande aussi une forme d'effort, le côté absurde, le côté originalité demande... Un certain effort, soit cognitif, soit émotionnel, soit...
Oui, parce que c'est éloigné des référentiels habituels. Voilà, c'est ça. L'originalité, c'est reconnaître que quelque chose est éloigné de nos référentiels. Donc, en effet, le comportement d'un enfant, et surtout les comportements qu'on qualifie de créatifs chez les enfants, on les qualifie de créatifs parce qu'on n'a pas mis vraiment d'autres mots, mais, parce que c'est difficile de... On n'a pas suffisamment de mots, mais un enfant, on ne peut pas vraiment dire qu'il est créatif. Un enfant, il est curieux, il tente des trucs... Souvent, c'est absurde. Il n'a pas encore suffisamment d'expérience du monde pour que ses idées soient vraiment adaptées. Il va te faire des dessins qui sont nuls. Si tu les mettais dans, je sais pas, si tu disais que c'était un adulte qui les avait faits, tu dirais non, mais c'est juste nul. Voilà, c'est très éloigné de ce qu'on pourrait attendre d'un beau dessin. Mais comme c'est des enfants, ça va avec leur âge. C'est complètement normal. C'est comme ça qu'ils découvrent le monde. Et surtout, quand on est leurs parents, on est ravis de cette originalité-là. Mais elle est fatigante parce qu'elle est très éloignée de nos modèles habituels. Et si on mettait les comportements d'un enfant, même les créations d'un enfant dans un adulte, la personne ne paraîtrait pas créative. Elle paraîtrait complètement folle. Vraiment. Et pathologiquement folle, tu vois. Enfin, voilà.
La folie, ce serait un peu une forme de créativité, mais qui serait complètement...
Complètement du type O, ouais. Et d'ailleurs, tu prends certains grands... certains grands créatifs, ils ont fini leur vie en devenant à moitié fous, et ce qu'ils ont fait à ce moment-là était encore très original, mais n'était plus du tout adapté l'enjeu artistique, scientifique qu'ils exploraient. Et ça devenait du grand n'importe quoi. Et donc, ils étaient plus créatifs à la fin de leur vie. Parce que c'était plus adapté, c'était juste original. Donc, en effet, donc les deux caractéristiques d'un acte créatif, c'est d'être adapté et original. Donc, adapté, c'est que ça fonctionne. Si on est en science, ben, la théorie explique plus de choses avec moins d'hypothèses que la précédente. En art, c'est reconnu par la société comme de l'art important. Dans le quotidien, tous ces petits actes créatifs qui vont résoudre un problème, faciliter une situation, être efficace.
Tu l'avais avec le côté d'Henry Ford aussi, l'industrialisation. C'était d'arriver à mettre en place des processus.
Ouais.
Quelque part, ça peut être des nouveaux processus, mais il va falloir qu'à chaque fois, le nouveau processus, ça soit un petit bout de processus qui soit ultra adapté au système qui est en place et qui soit destiné juste à optimiser ce qu'on avait choisi d'optimiser. Si on essayait de proposer quelque chose qui était plus original, ben, du coup, ça ne serait pas rentré dans les paradigmes de ce contexte.
Le paradigme fordien et taylorien, ce n'est pas du tout un paradigme de la créativité, c'est un paradigme de l'uniformisation et de la masse. Où on veut faire du super adapté, optimiser au maximum pour que ça soit super adapté, mais le moins d'originalité possible, parce que justement, par défaut, entre l'adaptation et l'originalité, il y a, c'est pour ça que j'ai ce petit schéma, un espèce de vase communicant. Les deux sont a priori paradoxaux. Pour faire des choses adaptées, il faut s'enfermer dans l'existant au maximum pour être dans le certain, et faire les choses telles qu'on les a toujours fait et les optimiser juste à la marge pour qu'elles soient encore plus performantes là où elles étaient déjà performantes, tandis que l'originalité, il faut nécessairement s'éloigner de l'existant par définition et donc sortir des paradigmes habituels et prendre une certaine forme de risque. Donc, les deux sont mutuellement exclusifs par défaut. Et là où un enfant a beaucoup plus de simplicité à être très original, mais beaucoup moins à être adapté parce qu'il ne connaît pas encore suffisamment le réel pour faire des choses qui marchent, là où un super ingénieur ou un super consultant de McKinsey bercé au taylorisme va être capable d'avoir des raccourcis de pensée parce qu'il est super expert de son domaine et donc de faire des choses super adaptées à résoudre des problèmes déjà connus avec des solutions déjà connues ou une petite créativité à la marge où il va aller explorer des choses légèrement différentes par rapport au contexte dans lequel il est mais qui sont encore vraiment à l'intérieur des bulles qu'on connaissait déjà. Le grand créatif, il arrive à réunir et enlacer les contraires en faisant de l'originalité et de l'adaptation deux forces qui ne s'annihilent pas, mais qui au contraire, dans une dialectique commune, révèlent des nouvelles possibilités fortes. Donc c'est le créatif, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à combiner l'originalité et l'adaptation. Et c'est là où le phénomène fondamental cognitivement pour un humain de la créativité, c'est la dissociation dont je parle à la fin du bouquin qui est né sous la plume d'Arthur Koestler et qui explique comment on peut, en tant qu'humain, réunir ces deux contraires que sont l'adaptation et l'originalité là où c'est très dur. Mais on peut le faire grâce à des machines, on peut le faire, l'évolution le fait, elle a ce double mécanisme qui rend possible une adaptation originale et des originalités adaptées. Et en tant qu'humain, on a des processus aussi.
Et puis, encore une fois, justement, si on suit un peu le cheminement de la pensée que tu as posée dans ton livre, si on sort la notion de créativité de l'humain, de l'individu, on se rend compte aussi que c'est un processus qui est collectif, d'une certaine manière, tu vois, collectif et même global, je reviens sur ce qu'on disait avant, mais collectif dans le sens où moi, ça m'a fait penser à ça. Tu vois, par exemple, on peut être dans des écosystèmes où tu vas bosser avec des gens qui vont être tout le temps sur l'émergence, qui vont être tout le temps plutôt du côté haut, très originaux. Et ces gens-là, ils ont des idées qui sont foncièrement géniales, mais qui sont pas comprises par les personnes qui pourraient appliquer leurs idées. Un exemple, dans mon collectif, par exemple, tu en as qui réfléchissent aux nouveaux modèles d'organisation, toutes ces choses-là. Tu vas parler des modèles d'organisation cellulaires ou régénératifs ou quoi que ce soit. Et après, derrière, il va y avoir une frustration parce que quand ils vont avoir la chance de discuter avec un dirigeant d'une boîte, ils ne vont pas se comprendre, en fait. Lui, il va passer pour un fou et l'autre, il va dire que ce dirigeant, il est trop ancré dans ses habitudes et dans ses histoires et du coup, il n'arrivera jamais à évoluer. Et donc, du coup, là où il y a le côté créatif, enfin, le côté collectif, je veux dire, c'est de se dire, en fait, il y a des gens, en fait, qui sont connectés à ces humains-là, intermédiaires, et qui, en fait, peuvent comprendre les personnes qui sont très originales. D'une certaine manière, vont pouvoir traduire, sans transformer ou sans travestir, mais vont pouvoir traduire un petit peu pour pouvoir présenter cette originalité de manière plus adaptée, qui fait que du coup, ça va être compris. Potentiellement, ça va toucher un peu l'intérêt de l'autre personne de l'autre côté. Et on va pouvoir faire rentrer des choses originales dans des contextes. Parce qu'il y a eu un agent d'adaptation ouais. qui est passé par là.
Alors, ma réponse est en deux temps. Je pense que le vrai créatif est capable d'avoir un pied dans les deux mondes. Et quand on regarde dans l'histoire, souvent c'était le cas. Par exemple, Einstein, c'est le cas basique. Hein, je le donne parce qu'on connaît bien son histoire.
Oui, Einstein, mais, Leonardo da Vinci, enfin, tous ces
personnages. Et il y a des, enfin, y a des milliers de grands créatifs qui n'ont pas autant marqué l'histoire parce que moins médiatisés, etc. Mais Einstein, du coup, on connaît un peu sa vie. Certes, il était très jeune. En 1905, quand il écrit les 5 articles qui vont révolutionner la physique, il pose les bases de la relativité restreinte, de la physique quantique, du mouvement brownien, etc. Enfin bon, une année miraculeuse, comme on dit. Il a 26 ans. Il n'est pas encore expert en physique. Il n'a pas encore pris tous les codes. Il n'a pas encore une espèce de position qui fait qu'il va penser à l'intérieur d'un prisme déjà connu qui va simplement approfondir. Il est suffisamment jeune et encore suffisamment peu adapté au système pour être capable d'originalité. Et en même temps, c'est un physicien. Il a appris la physique. Il en a fait c'est tout son parcours universitaire, enfin, scolaire, on va dire, c'est de la physique théorique. Il est passionné de ça. Et à 26 ans, bon, il travaille dans l'office des brevets de Berne. Donc en plus, il n'est pas sous la coupe d'un physicien plus âgé qui lui dirait où aller. Et donc, il a cette double possibilité. Il est à la fois suffisamment expert en physique pour aller chercher des choses adaptées, parce que si c'était... un non-physicien, jamais il aurait pu inventer la relativité restreinte. Donc, il connaît suffisamment la physique pour pouvoir travailler avec la matière première de la physique. Et en même temps, il n'est pas encore suffisamment expert et enfermé dans ses modèles de pensée pour ne faire que de l'adapter et être un grand physicien pour les approfondissements qu'il fait du paradigme habituel. C'est là où il y a la possibilité de bissociation, c'est-à-dire d'association longue distance, d'être capable à un moment de faire émerger donc des nouveautés qui connectent des choses très éloignées que les autres n'auraient pas connectées parce qu'ils sont enfermés dans des matrices où seules les choses proches se peuvent être connectées. C'est pareil pour la plupart des grands créatifs. Mais donc, pour moi, le vrai créatif, il a cette capacité de ne pas être limité à uniquement l'originalité ou uniquement l'adaptation. Celui qui sait que avoir des idées... super original, etc., celui qui est en avance de 30 ans sur son époque, etc., c'est un inventeur fou. Peut-être que 50 ans après, le monde va lui donner raison, mais ce n'est pas lui qui aura eu raison, parce que ce n'est pas lui qui va réussir à amener dans le monde cette nouvelle réalité. Dans l'acte créatif, il y a la production des idées qu'on imagine, ou en tout cas, la définition, c'est que c'est la capacité à réaliser une production qui soit neuve, originale et adaptée. La capacité à réaliser et à mettre dans le monde fait vraiment partie de la créativité. Donc, celui qui est seulement original, c'est un inventeur fou, mais ce n'est pas un créatif. Celui qui est seulement adapté, qui a des grosses limites d'expertise et qui est incapable de croire en une autre possibilité, de croire ou de voir une autre possibilité, lui non plus, il n'est pas créatif. Mais lui, on a l'habitude de dire qu'il n'est pas créatif. Le vrai créatif, il arrive à faire les deux. Par contre, comme on est dans une société de spécialistes où beaucoup avec l'éducation, mis les gens dans des cases, selon les métiers, t'en as qui vont se considérer comme des créatifs et ils vont être tout azimuts en pensée divergente. Il y en a, ils vont se penser comme non créatifs et donc ils vont jamais accepter d'avoir la moindre idée un peu originale. On a tendance à séparer les choses. Et d'ailleurs, le brainstorming le fait bien, il va séparer en deux phases, une phase qu'on appelle la divergence, générer le plus d'idées que vous pouvez sans avoir de filtre, et une phase qu'on appelle la convergence, on va choisir les idées les plus adaptées. Et si tu vas au bout du brainstorming, tu ne mets pas les mêmes personnes pour avoir toutes les idées originales et pour refermer le champ et choisir les idées adaptées. Ce ne sont pas les mêmes profils psychologiques. Alors qu'en fait, ça peut l'être, mais on s'est habitué à penser que non. Ce qui fait qu'on a besoin, là je suppose que c'est un peu ce que tu voulais amener, on a besoin d'une figure intermédiaire qui est un espèce de traducteur, un passeur de frontières, que de plus en plus dans notre société, on appelle le facilitateur. Et je pense, a un rôle énorme à jouer. C'est presque un rôle transitoire. J'aimerais penser que demain, on n'a plus besoin du facilitateur parce que des deux côtés, on sait faire le pas vers l'autre monde. Mais aujourd'hui, en effet, dans beaucoup de situations, pour connecter toutes les nouvelles possibilités qu'explorent les inventeurs fous avec un monde qui est super fermé sur ses positions, mais qui en même temps a besoin de se transformer parce que le monde va pas bien, on a en effet besoin de ces personnes qui peuvent traduire les deux langages, qui peuvent rappeler aux inventeurs fous les réalités du monde, et que ne pas prendre en compte les réalités du monde, c'est être un enfant créatif, parce qu'il y a principe de réalité. Si tu veux avoir si tu veux que tes idées fonctionnent, non, c'est pas l'autre qui est méchant parce qu'il les comprend pas, c'est qu'il y a un système qui fonctionne d'une certaine façon, et t'es obligé d'en comprendre les règles du jeu si tu veux les changer. Et en même temps, d'aller dire à ceux qui sont dans le système un peu habituel, votre système va mal, il y a des gens qui ont d'autres idées, et c'est pas juste des tarés, ils sont en train, même s'ils ont l'air pour vous un peu d'être des originaux, ils sont en train de mettre en place la possibilité d'autres modèles, et vous pouvez, par petites touches, aller vous inspirer de ça pour évoluer, puisque vous en avez besoin. Donc, voilà, il y a en effet ce rôle du traducteur facilitateur qui est super fondamental.
Ne serait-ce que conscient, enfin, le rôle du facilitateur, un peu comme toi tu le dis, j'imagine qu'à un moment donné, ça soit quelque chose qui soit porté un peu par tous, parce qu'en fait, on aura conscientisé ce qui se passe, en fait, de manière quasiment naturelle, tu vois. Des gens qui ont cette originalité, qui sont un peu fous, et qui sont un peu incompris, et qui vont écrire des tonnes de manuscrits, faire des tonnes de schémas dans tous les sens, qui peuvent être frustrés d'être bloqués là-dedans. Il y en a certains qui ont la chance d'être avec d'autres personnes qui vont comprendre ce qu'ils ont fait, qui vont les mettre dans des ouvrages et qui vont en faire des livres, qui vont être déjà plus accessibles ou qui vont être adaptés à un monde scientifique, donc du coup validés d'une certaine manière, même si ça reste encore complexe. Et puis là, lui, il aura la chance d'avoir quelqu'un qui a du coup lu ce livre-là, qui a laissé 500 pages et qui en aura lu d'autres et qui du coup aura fait un bouquin qui sera plus vulgarisé et donc du coup plus adapté à un autre grand public. Et du coup, au final, ça aura réussi à répandre ça. En fait, c'est quelque chose qui existe. Et même du coup, si je prends l'exemple de ton livre, en fait, c'est un peu ce travail-là aussi, quoi. C'est des tonnes de lectures et de recherches que toi, tu as fait de ta vie. Et tu as réussi à te dire, je vais poser ces éléments orientés vers du grand public. Et donc, du coup, avec un certain niveau d'adaptabilité, tout en ayant intégré dedans le côté original de l'essence que tu as capté, en fait, de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu as découvert.
J'espère que ce livre, en plus de parler de la créativité, est un livre relativement créatif pour qui le lit, parce qu'il y a une posture vraiment originale, il y a des idées auxquelles on ne s'attendait pas, je crois, en tout cas, qui ne sont pas répandues dans le grand public, et j'espère qu'il est suffisamment adapté pour être lu par le grand public. Donc, j'espère que ce livre coche ces deux cases pour apporter d'une façon adaptée et originale quelques idées qui me semblent importantes. Mais ça, c'est au lecteur de...
Mais pour moi, le livre est créatif. Après, en effet, c'est sans doute de juger, mais c'est créatif dans le sens qu'on est suffisamment adapté pour être lu par le grand nombre, et suffisamment original pour avoir des idées qui ouvrent des perspectives. Et du coup, pour quand même parler un petit peu d'intelligence artificielle...
Oui. C'est quand même le sujet de l'histoire.
En rebond sur ce qu'on disait justement sur la créativité, le côté original, adapté, je trouve que ce que tu amènes comme réflexion sur l'intelligence artificielle, on va dire les versions les plus évoluées, donc quand on est sur la un peu plus à la fin de ton livre, le côté de en fait on peut réussir à avoir une intelligence artificielle qui va se comporter, enfin qu'on va laisser se comporter comme un enfant, qui va pouvoir explorer juste parce qu'on lui a dit « explore, sois curieuse ». Et en fait, elle n'a aucune contrainte, aucune adaptabilité à avoir autre que l'environnement dans lequel on la met. Mais il n'y a pas des contraintes culturelles, il n'y a pas des héritages, il n'y a pas des biais cognitifs, il n'y a pas toutes ces choses qui vont faire que, si on prend l'exemple d'Einstein, il n'aurait pas pu avoir des idées pour de la physique s'il n'était pas connecté sur le monde de la physique. En même temps, il a été suffisamment jeune pour pouvoir rester original et pas être trop adapté. Et du coup, forcément, moi, là-dedans, je me dis, mais du coup, l'intelligence artificielle, c'est génial, parce qu'elle, elle est potentiellement capable de jamais être trop adaptée, parce qu'il n'y a pas cette rigidité, cet enfermement culturel que l'humain peut avoir. Donc, elle peut être dans des concepts comme la physique pour pouvoir y réfléchir sans forcément y être englué. Et en même temps, elle peut toujours avoir un regard neuf et original parce qu'elle n'est pas engluée. Et donc, ça ouvre des perspectives. Et tu en parles dans ton livre, d'ailleurs.
C'est pas le type
2. Il y a certaines constantes dans les sciences qu'on avait posées comme étant les choses essentielles sur lesquelles... voilà, qui, quelque part, bah, quand on pose des constantes et qu'on se dit on va tous repartir de ça pour réfléchir, bah, on s'adapte sur quelque chose qui a été posé. Et en final, bah, quand l'intelligence artificielle réfléchit, tu en parleras mieux que moi, mais elle réinvente des contraintes autant qu'il en est possible. Quoi.
Ouais, elle trouve d'autres façons d'exprimer le réel avec des variables fondamentales différentes. Alors, juste pour du coup, donner un peu le paysage global sur l'intelligence artificielle dans le bouquin, je passe par pas mal de types d'IA, ce qui me permet à la fin de tirer une typologie de trois types de cyborgs, justement, Creative Borg. Les cyborgs de type 1, c'est ceux que j'appelle contrôlables. C'est un peu tout ce qui se passe en ce moment, les IA génératives du style ChatGPT, Midjourney, etc. C'est les cyborgs de type 1, où c'est plutôt des outils au service de la créativité humaine. C'est complètement contrôlable. On leur dit quoi créer, et ils sont capables de le créer. Par exemple, avec Midjourney, on met ce qu'on appelle un prompt du texte, et ça, on explique ce qu'on veut sur l'image, et ça nous génère l'image. Donc, ça transforme le processus créatif, ça rend très très facile la création, ce qui n'est pas exactement pareil que la créativité, enfin, c'est pas du tout pareil même. Mais...
Non, c'est ce qu'on disait, c'est un peu comme, en fait, quand on commande une image sur Midjourney avec une phrase, c'est exactement comme le mécène de l'époque qui disait « je voulais tel rendu ».
Tout à fait.
Du coup, tu as ton image, exactement. T'es content, mais t'as pas forcément valorisé le processus.
Exactement. Et à cette époque, t'avais un peintre qui faisait la peinture et tout le monde s'en foutait. Là, t'as un algorithme qui a calculé l'image et tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de valeur mise dans l'algorithme qui gère l'image. En effet, on ne va pas se dire, oui, l'effort que l'algorithme a fourni a une valeur. À ce stade-là, c'est pas pertinent. Donc, c'est les IA génératives et puis quelques autres types d'algorithmes comme les GAN qui font partie d'ailleurs des IA génératives mais un peu à l'ancienne qui font ces cyborgs de type 1 qui sont des outils au service de la créativité humaine qui posent plein de questions que j'évoque dans le bouquin sur comment les métiers créatifs, les métiers de la création vont évoluer et comment ça va avoir un impact sur notre société à très court terme, mais ça reste des outils. Donc, parce que c'est des outils, ça va avoir un impact très rapide parce que ça va devenir des objets du quotidien. Et en même temps, parce que c'est des outils, les questions philosophiques profondes qui sont posées, sont pas les plus profondes. Les plus profondes arrivent avec les cyborgs de type 2 et 3. En gros, les cyborgs de type 1, ils sont contrôlables, notamment parce qu'ils ont appris sur les données humaines, et ensuite, on leur dit quoi créer à l'intérieur de nos données humaines. Donc, ils interpolent. Alors, il y a énormément de place pour interpoler des choses incroyables, et un outil comme Midjourney est vraiment fou, mais ça reste à l'intérieur des données humaines sur lesquelles tu as entraîné l'algorithme. Et même si ces algorithmes peuvent faire preuve de certains types de créativité, on ne va pas reconnaître leur travail comme créatif. Quand Midjourney produit une image, tu ne te dis pas « waouh, l'algorithme, il est vraiment très créatif ». Toute la démarche de la personne qui utilise cet outil peut être créative, mais tu ne te dis pas ça. Parce que ça apprend que sur nos données. Et tant que ça apprend que sur nos données, ça reste quand même enfermé dans le champ humain. Là où c'est vraiment, et c'est ce que tu évoquais, très perturbant, c'est quand tu passes au cyborg de type 2 et ensuite au cyborg de type 3. Les cyborgs de type 2, c'est d'autres types de fonctionnement que les IA génératives, même si ça peut s'y interfacer. Ça va beaucoup être fondé sur ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement et certains autres types d'apprentissage ont cette incroyable propriété de ne pas apprendre à partir des données humaines. On va mettre l'algorithme dans un environnement, que ce soit un environnement numérique ou l'environnement du réel. Donc dans ces cas-là, on a besoin par exemple de le mettre dans un robot qui puisse interagir dans le réel, mais ça peut être dans un environnement simulé, dans un jeu vidéo ou même dans le jeu du Go, qui est un environnement. C'est un environnement limité, c'est un jeu, mais c'est un environnement. On va balancer l'algorithme dans un environnement en lui donnant comme possibilité, non pas l'expertise humaine, mais simplement une espèce de curiosité intrinsèque. On va l'inviter, cet algorithme, ça va être codé à l'intérieur, à expérimenter énormément de choses, et à partir des choses qu'il expérimente, à concevoir sa propre représentation de l'environnement dans lequel il est. Donc pour le Go, l'algorithme va concevoir, AlphaZero par exemple, va concevoir sa propre modélisation de ce qu'est le jeu de Go, de comment ça fonctionne. Et AlphaZero n'a jamais vu une seule partie humaine, donc il va apprendre en jouant contre lui-même des millions de parties, et en faisant ça, il va apprendre le Go à sa sauce. Et là où c'est génial, c'est que
AlphaZero, certes, devient le plus grand joueur de Go de l'histoire, joueur, entre guillemets, c'est le meilleur algorithme pour jouer au Go, il bat tous les humains à plate couture, il bat aussi tous les autres algorithmes à plate couture, mais il joue très différemment des êtres humains. Là où nous, on pensait qu'au Go, comme ça faisait des millénaires qu'on y jouait, on avait à peu près atteint les plus hautes montagnes et que donc le Go, c'est un espèce d'échec en beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil. Et on pensait avoir atteint à peu près les meilleures montagnes stratégiques, savoir ce que c'était les meilleures stratégies au Go et pouvoir améliorer certaines petites choses à la marge avec une créativité plutôt de type A, adaptée, en améliorant des petites choses à l'intérieur des paradigmes existants sans être très original. T'as ces algorithmes qui arrivent et qui vont d'abord jouer un coup extrêmement créatif, le 37e coup de la deuxième partie entre AlphaGo et Lee Sedol, et ensuite, avec AlphaZero, un algorithme qui a appris sur aucune partie humaine, il va commencer à jouer bien mieux que nous, complètement différemment de nous, avec vraiment d'autres stratégies que celles de l'humain. Et donc, il va nous permettre de voir le réel d'une façon qu'on n'aurait jamais vue nous-mêmes parce qu'on était enfermés dans, en effet, une espèce de flocculation culturelle,
un héritage, un legacy.
Et quand on apprend le Go, bah on apprend nous en tant qu'humains d'abord en regardant les parties des grands maîtres, et puis ensuite on va jouer nous-mêmes et à la marge essayer d'être un peu créatif. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas jouer 500 millions de parties contre nous-mêmes pour apprendre le Go complètement à notre façon. Il faudrait ça pour qu'on puisse atteindre un niveau de grand maître sans avoir appris à partir des grands maîtres. Heureusement qu'entre êtres humains, on a la communication, le langage qui accélère notre apprentissage du monde et on apprend par imitation de nos semblables. Mais cette imitation de nos semblables, en fait, on est en train d'apprendre à partir des données des autres, elle nous empêche de voir le monde de façon radicalement neuve. Heureusement...
On apprend par défaut de manière plus ou moins adaptée, vu qu'on fait par mimétisme.
Ouais. On a deux modalités d'apprentissage, voilà, le mimétisme qui nous fait apprendre grâce aux données des autres et donc qui nous permet d'être vite adaptés, mais pas très originaux. Et on apprend, heureusement, aussi par curiosité, c'est pour ça que les enfants jouent, etc., ils découvrent le réel par eux-mêmes, et ça leur permet d'avoir quand même aussi leur modèle du monde, et donc d'avoir une espèce de mix qui fait qu'on a tous des personnalités différentes, on n'apprend pas que des données des autres, on apprend aussi par nos propres expériences. Donc on a une modalité, certes mimétique, imitative, mais aussi une modalité curieuse, et l'interaction de ces deux fait que notre apprentissage permet de basculer entre l'adapté et l'original, et permet la créativité. En fait, dans les algorithmes d'IA générative habituels, on les fait que apprendre sur nos données, que de façon mimétique. Donc en effet, ils reproduisent des choses qui peuvent être un peu originales, mais pas énormément, ça reste à l'intérieur de nos champs conceptuels. Et les cyborgs de type E2, notamment avec l'apprentissage par renforcement, on va leur permettre d'apprendre soit avec des données humaines plus de l'exploration autonome de l'environnement et de la curiosité qu'on va coder dans l'algorithme, j'explique comment on fait ça, soi-même en leur donnant que la modalité curieuse, si vraiment on veut qu'ils nous apportent un regard sur le réel radicalement neuf. Donc AlphaGo, c'est un mix, on lui a appris des parties de grand maître, plus on l'a fait jouer contre lui-même, et cette dualité-là lui a permis de jouer des coups très originaux, mais quand même, quand il joue une partie, il reste proche d'un jeu humain, mais il arrive qu'il fasse un coup très original. Et puis AlphaZero, qui a appris complètement tout seul, bah, il joue d'une façon réellement très très originale pour un humain. Ça, si on l'applique au réel, en effet, ça fait qu'on a des algorithmes à qui on va, par exemple, montrer des systèmes en mouvement, par exemple un double pendule, donc un pendule avec un deuxième pendule accroché. On sait très bien décrire le mouvement hein, de ce genre de système. Il nous faut quatre variables, l'angle des deux pendules, des choses comme ça, la taille des bras, enfin voilà. On a quatre variables fondamentales qui nous permettent de décrire le mouvement, de décrire l'équation du mouvement. Et en fait, on pensait que ces variables étaient fondamentales et on a un algorithme qui a été créé par le Creative Machine Lab. À chaque fois qu'on le lance, il regarde ce double pendule, il essaye de trouver, il n'a jamais appris sur les données humaines, hein, c'est un physicien naïf, il va essayer de trouver l'équation du mouvement et à chaque fois qu'on va le lancer, il va trouver une équation du mouvement qui contient deux variables fondamentales qui sont les mêmes que les nôtres et deux autres qui sont complètement différentes et qui ne s'y ramènent pas. Et à chaque fois qu'on lance l'algorithme, on en a deux nouvelles. Et donc, en effet, il nous montre qu'il y a plein de regards différents qu'on peut porter sur le réel. Donc ça, moi, là, j'ai créé un algorithme pour... j'ai créé un article pour une revue scientifique où je parle de ces algorithmes comme des ontoscopes, des espèces de télescopes sur l'ontologie. Donc, une ontologie, c'est les concepts fondamentaux avec lesquels on exprime un domaine, par exemple, le réel. L'ontologie du Go, c'est les concepts fondamentaux avec lesquels on parle du Go. L'ontologie de la physique, c'est les concepts les plus fondamentaux avec lesquels on parle du réel. L'ontologie dans les mathématiques, ça va être les axiomes de Peano, les axiomes de base avec lesquels on exprime toutes les mathématiques, ou presque. L'ontologie, c'est les concepts de base. Et quand on modifie les concepts de base, en fait, ça nous permet de prendre un tout nouveau regard sur le réel. Ce que fait Einstein, c'est dire, bon, ben, en fait, il n'y a pas espace et temps qui sont séparés, il change l'ontologie. Il y a un seul et même objet qui s'appelle espace-temps, voire même c'est juste de l'espace en quatre dimensions. Il fait autre chose avec E égale MC2, c'est, il dit, il n'y a pas la masse d'un côté et de l'énergie de l'autre, c'est exactement la même chose, E égale MC2, l'énergie égale masse fois vitesse de lumière au carré, c'est un seul et même objet, c'est un seul et même concept, l'énergie et la masse. Et donc, en physique, à chaque fois qu'on change certains concepts, mais de façon générale, quand on change certains concepts de base, ça ouvre une nouvelle vision sur le réel. Ces algorithmes de type 2, si on les utilise en science, et c'est une des raisons aussi de la création, par exemple, par Elon Musk de xAI, la boîte qui veut craquer le réel, donc où il veut appliquer ces démarches-là à la science pour essayer de comprendre le réel d'une façon bien plus large que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça rejoint un peu les idées aussi d'Yann LeCun, qu'on est en train de vivre une nouvelle renaissance, parce que ces algorithmes peuvent nous permettre de révolutionner dans tous les domaines la façon dont on voit les domaines, et potentiellement de nous dire, bah, en fait, humain, vous vous êtes enfermé dans des biais de culture et des biais d'expertise en pensant être dans le meilleur paradigme, ce qui vous empêchait de voir qu'il y avait des paradigmes beaucoup plus pertinents ailleurs. Donc, de faire preuve d'une créativité assez incroyable, notamment en science, mais pas que. Ça, c'est les cyborgs de type 2. Et les cyborgs de type 3, en effet, on ne leur dit même plus où créer, parce que les cyborgs de type 2, ils sont orientables. On ne peut plus contrôler ce qu'ils vont créer, mais on leur dit, cherche des nouvelles choses dans le réel, cherche des nouvelles choses dans le go. On leur donne un terrain de jeu, un environnement. Et dans cet environnement, après, ils se développent et ils construisent leur propre représentation. Et donc, ils font preuve d'une créativité radicalement différente de la nôtre. Les cyborgs de type 3, ça se rapproche de l'intelligence artificielle générale. C'est en effet le fait de mettre dans des robots. Il faut des robots là, parce que ça se passe dans le réel, qui est le seul environnement suffisamment riche pour que ces cyborgs puissent exister. Mettre dans des robots des algorithmes de curiosité pure. On ne leur dit pas du tout quoi chercher. Ça s'appuie sur ce qu'on appelle le constructivisme en sciences cognitives. Et en ce moment, par exemple, t'as des gars comme Pierre-Yves Boudelier qui sont en train de faire des belles révolutions là-dessus. C'est l'idée de dire, ben, un enfant, quand on le met dans le réel, il découvre le réel et il construit sa compréhension du réel en expérimentant tout et n'importe quoi. Il n'a pas une direction, il n'est pas en train juste d'essayer de jouer au go ou juste de regarder des systèmes en mouvement pour trouver les variables fondamentales. Il explore le réel pour en construire une représentation globale et généraliste. Et donc, les cyborgs de type 3, c'est cette idée, c'est de coder dans des machines une espèce de curiosité purement intrinsèque. C'est pour ça aussi qu'on parle d'IA développementale. Ça permet de singer le développement cognitif d'un enfant pour qu'ils construisent une représentation purement à eux du monde et que, comme j'essaie de le démontrer dans les derniers chapitres, ils fassent émerger, en effet, une curiosité, une créativité qu'on devra reconnaître comme complète, réelle, autonome, parce qu'ils vont réaliser des choses, ils vont découvrir des choses qui vont complètement nous étonner, qui ne seront pas du tout dans nos schémas de pensée habituels, qui seront très originales, originaux et adaptés. Et voilà, je pense que même si ça se rapproche de l'intelligence artificielle générale, de parler de cette créativité artificielle générale, on est en train d'aller dessus et ça nous poussera à complètement accepter que des machines peuvent être créatives. Et on aura peut-être des grandes ruptures scientifiques, culturelles, etc., qui seront réalisées par des machines en autonomie, sans qu'un humain leur ait demandé de chercher ça. Et là, ça veut dire que l'histoire ne sera plus uniquement humaine.
C'est un peu le point sur lequel j'arrivais à la fin de ton livre, justement, c'était de se dire, en fait, vu que toi, tu passes par le concept de créativité, ensuite après par le côté nature, et après tu reviens sur une science artificielle pour dire, bon, bah voilà, en fait, la créativité, on la détache de l'humain. On peut considérer que c'est un processus naturel, et du coup, on peut aussi considérer que l'intelligence artificielle, au final, est un processus naturel.
Eh oui.
Voilà. Et donc, du coup, trop bien, en fait, c'est que la vie, dans son évolution, comme on en parle depuis le début, a réussi, entre guillemets, à trouver un moyen pour libérer la rationalité humaine, le raisonnement humain, des contraintes qu'il a du fait, justement, d'être dans un corps. Qui fait que du coup, vu qu'il a un certain corps, quand il est enfant ou quand il grandit, bah, il va explorer son monde d'une certaine manière.
Ouais.
Et donc, le mimétisme va l'adapter et donc va quelque part l'enfermer d'une certaine manière. Son corps et sa manière de percevoir va l'enfermer aussi. Et donc, il va y avoir un périmètre assez resserré. Là, du coup, on crée l'intelligence artificielle qui peut être complètement exemptée de tout ça. Et du coup, limite, j'aurais eu envie qu'on soit capable d'inventer une sorte de petite bulle ou j'en sais rien, qui puisse aller explorer librement dans le réel pour justement être dans cet endroit où il y a plus d'informations que dans un ordinateur, quoi, parce que le réel, c'est tellement riche en informations, mais qui en même temps ne soit pas mimé sur, sur les caractéristiques de l'humain. Parce que du coup, ça m'avait perturbé. Je me disais, mais du coup, on est en train de créer un truc qui est complètement libéré. Et si du coup, pour qu'il explore le réel, on le remet dans des paramètres où du coup, il a deux mains, deux jambes, mais en fait, est-ce que on n'est pas en train de le limiter?
Alors, pour des en fait, je suis à 1000% d'accord. C'est une réflexion passionnante. Quand on est dans l'IA développementale, aujourd'hui, c'est un tout petit domaine qui émerge. On est plutôt en train d'essayer de faire des robots qui ont une forme humaine dans laquelle on met ces algorithmes, ou alors une forme de certains animaux, etc. Parce que l'objectif, il est scientifique, c'est d'essayer de mieux comprendre la cognition humaine en regardant comment ça se passe dans ces algorithmes. Mais si on pousse le truc plus loin, et je suis complètement d'accord, c'est le sens de l'article sur l'ontoscope que j'ai écrit, donc un nouveau télescope sur le réel. Qu'est-ce que ça serait, imaginons un robot qui n'ait aucun de nos cinq sens, par contre qui ait cinq sens différents. Il est capable, ou 12 autres sens différents, il est capable de percevoir les infrarouges, percevoir les ondes magnétiques.
Tu lui mets tous les trucs que n'importe quel être vivant de la nature peut avoir, les insectes, les machins, les trucs qu'on n'a pas nous, tu lui mets tous les capteurs possibles.
Quel réel il construit avec ça? Et quelle nouvelle perception du réel, et quel nouveau modèle du réel il construit, et quelle nouvelle connaissance sur le réel il construit avec ça? Quand on voit à quel point utiliser les signaux invisibles, les signaux que notre corps ne perçoit pas, ça a permis à la science moderne de se développer. Le dernier exemple étant les ondes gravitationnelles. On est quand même capable de voir la coalescence de deux trous noirs parce que ça produit des ondes gravitationnelles dans l'espace qu'on est capable de détecter parce qu'il y a des pouillèmes de micro-changements dans l'espace-temps qu'on est capable de mesurer. Enfin, c'est des trucs complètement fous. Parce qu'on est capable, avec des instruments de mesure très précis, d'aller percevoir ces choses-là, on ouvre des champs sur le réel énormes. Imaginons qu'en effet, une sorte d'être numérique ait ces perceptions-là par défaut et ait construit son rapport au monde à partir de ces perceptions-là, les choses qu'on risque de découvrir, c'est vertigineux. Même la vraie question, c'est est-ce qu'on va être capable de les comprendre? On en arrive presque là. Mais c'est vertigineux de penser ça. Et donc, l'article que j'écris sur les ontoscopes, ces espèces de télescopes sur le réel, c'est vraiment cet enjeu que j'explore. Je te l'enverrai, l'article, parce qu'il est censé sortir dans la revue scientifique dans un an. Ouais. Il m'avait dit octobre, je croyais octobre 2023, là. Je l'ai écrit pendant l'été, et en fait, non, peer review, mise en page et tout. Enfin bon, il sort dans un an. Waouh. Ça finit, voilà, en proposant quelques espèces d'expériences, en effet, un peu à la fois de pensée, mais qui pourraient être mises en œuvre, voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire, la construction du réel par une machine qui a accès à tel type d'informations, voilà, qui n'a pas du tout le même corps que nous. Ne serait-ce, par exemple, une machine, je ne sais pas, qui a exactement comme un être humain. Tu prends un être humain, c'est juste, t'accélères d'un facteur 1 million sa capacité à traiter l'information. Juste des petits changements comme ça. Parce que tu peux évidemment imaginer, ok, tu prends un humain, mais en plus, il a un lidar sur la tête. Bon, très bien, ok. Tu peux imaginer, ok, un humain, mais qui a 50 bras et qui se balade comme une boule qui roule sur elle-même, sur les bras. Tu peux imaginer des choses comme ça et le monde serait très différent. La construction du réel serait très différente. Mais tu peux aller plus loin, tu peux aller chercher des trucs un peu cognitifs, ok. Ou alors, qu'est-ce que c'est, au contraire, un humain qui a un traitement de l'information 1 million de fois plus lent, ou qui a un traitement de l'information, je ne sais pas, prend beaucoup, beaucoup plus en compte tous les éléments qui viennent de l'environnement et qui filtrent beaucoup moins, genre un humain qui est né sous LSD, si tu veux. Voilà. Quelle construction du réel ça apporte? Et en fait, quand tu commences à réfléchir à ça, tu te rends compte à quel point le petit prisme avec lequel l'humain perçoit le réel est infiniment limité, et à quel point, en effet, cette révolution de l'intelligence artificielle est l'occasion d'une renaissance, d'un phénomène comme celui de la Renaissance, d'ouverture de nos connaissances vertigineux.
Et pour finir quand même, et essayer de conclure sur justement sur ça, sur moi, la question que j'aurais posé, c'est avec un peu de prospective, vu que j'étais bien à la prospective aussi, c'est si,
parce qu'on en a pas du tout fait,
si, un petit peu, si on vit une forme de nouvelle renaissance et qu'on est capable, comme on vient de dire là, de se rendre compte qu'on ne voit la réalité que sous un tout petit prisme très très restreint, toute cette connaissance qu'on n'expérimente pas du coup directement, mais c'est de la connaissance qui va nous permettre d'accéder à l'intelligence artificielle, comment pour toi ça peut impacter la vie au quotidien des humains? Est-ce qu'on va avoir envie de d'étendre ce champ de perception parce qu'on va vouloir être des sortes de super-humains qui captent plus?
C'est super intéressant.
Ou est-ce qu'on va accepter de se dire, bah, en fait, non, c'est juste qu'on est humain, alors on est dans ce petit prisme, on le sait, on est curieux de voir ce qu'il y a autour, mais on va peut-être aussi essayer de peut-être profiter encore plus en profondeur de ce qu'on est capable de... Tu vois, je ne sais pas comment tu veux...
Alors, c'est assez proche des réflexions que je mène dans le tout dernier chapitre du livre qui s'appelle « Vivre ensemble », qui est après l'espèce de... d'exploration de tous les types de cyborgs, est un chapitre vraiment philosophique qui ouvre sur la relation de l'humain à la machine, la relation de l'humain à lui-même, qu'est-ce que ça veut dire pour penser à un avenir dans lequel on interagit et on vit avec des machines de ce type-là. Je le fais en un chapitre qui est plus une espèce d'ouverture philosophique et, a priori, alors là, je suis en train de préparer un livre qui sera vraiment un livre d'art sur l'intelligence artificielle pour cette année. Puis l'année prochaine, je reprends a priori sur un bouquin qui serait plus ou moins la suite de celui-là, mais beaucoup plus orienté sur cette question de vivre avec l'intelligence artificielle, ce que ça veut dire en termes artistiques, poétiques, politiques, économiques, écologiques, etc. Enfin, j'explore beaucoup plus le vivre ensemble que ça suppose. Donc, je répondrai beaucoup, j'espère, beaucoup plus précisément à tes questions quand j'aurai écrit ce deuxième bouquin. Mais pour donner un feeling un peu de moi, mon positionnement, parce qu'il y a une réponse en effet assez évidente que tu as évoquée, c'est de dire, il va falloir, ou alors on va vouloir, s'interfacer à ces machines. C'est indépend de la démarche transhumaniste, de dire, on se connecte à ces IA pour agrandir notre champ de perception et d'intelligence à mesure que ces algorithmes-là le permettent. Et on devient en effet des transhumains dans la mesure où on transcende notre situation d'humain qui est limitée à cette petite lorgnette. Donc c'est une des visions qui, jusqu'à il y a quelques années, était encore une vision un peu fantasmagorique, qui devient vraiment à questionner. Je pense qu'il faut qu'on pose la question du transhumanisme au niveau de la société. Parce qu'il va y avoir énormément de personnes, d'entreprises, de politiques, etc., qui vont aller vers ça. C'est l'expression de notre volonté de puissance.
Oui, c'est ça. C'est de nous étendre. C'est l'humain de toujours être dans le mieux, dans le...
Voilà. Moi, je suis beaucoup plus tenant, mais ça, j'exprime ça avec ma part presque plus poétique. J'aime beaucoup plus les approches de ce qu'on appelle le post-humanisme, en effet, dépasser un certain type d'humanisme qui est crépusculaire aujourd'hui, qui est celui de, finalement, la rationalité dédiée à la puissance, justement. Autant le transhumanisme, c'est continuer, transcender encore plus notre humanisme dans cette volonté de puissance. Pour moi, le post-humanisme est une posture beaucoup plus douce, de dire on a besoin de dépasser l'état humain dans lequel on est, parce que l'état humain dans lequel on est fondé sur la volonté de puissance. Donc, c'est à dépasser. Donc, l'idée du post-humanisme, qu'on peut appeler aussi co-humanisme, c'est d'essayer d'explorer comment on peut penser un humain de demain qui vit avec toutes ces technologies, certes, aussi avec toutes les questions écologiques qu'elle pose, mais où tout ça, en fait, l'a amené justement à tellement casser son orgueil, tellement à se rendre compte qu'il a une place quelconque et même plutôt limitée dans l'univers, parce que des machines seront plus performantes que nous sur à peu près tout ce qu'un humain peut faire, que ces blessures-là, ces espèces de blessures de son orgueil, l'ont amené à reconstruire une vision de la spécificité humaine qui n'est pas fondée sur la puissance et la performance. On s'est habitué à penser que l'humain, ce qui le définit, et ça va très bien à notre société, c'est la performance, la productivité. On a d'autant plus de valeur qu'on est productif, créatif, etc. En fait, je crois que la seule spécificité de l'humain, c'est d'être capable de ne pas être capable de. C'est qu'à l'intérieur même de sa puissance est contenue la puissance de ne pas. La grande puissance est capable de dire non. Typiquement, le lion, il bouffe la gazelle, il est plus puissant qu'elle, il n'a pas, c'est une nécessité, il voit une gazelle, il va la bouffer. Il n'a que de la puissance. Le lion, jamais, voit la gazelle et se dit j'ai la puissance, mais je ne vais pas le faire. Et ça, c'est le summum, en fait, de la puissance, qu'à l'intérieur même de ta puissance, tu puisses la nier. Ce qui nécessite d'avoir la puissance. Si tu nies une puissance que tu n'as pas, t'es juste faible. Mais quand t'as une puissance et que t'es capable de la nier, c'est là que on touche à ce que j'appelle, moi, la sagesse. C'est-à-dire que t'es capable de choisir, en toute autonomie, si tu fais ou tu ne fais pas. Parce que tu es capable de faire, mais de temps en temps, même si t'es capable de faire, tu ne vas pas faire. Donc, moi, j'appelle de tous mes voeux un humanisme qui soit fondé là-dessus. C'est-à-dire que après la phase plutôt d'enfance de l'humanité, qui a été celle de la soumission à la religion, après la phase d'adolescence de l'humanité, qui a été la phase de l'exploitation maximale de la puissance que nous a offert la science nous a fait passer à l'adolescence de l'humanité, on a besoin de devenir une humanité adulte, on a besoin de se prendre un chagrin d'amour. Le chagrin d'amour, c'est l'IA qui va nous le foutre dans la gueule. Non, vous n'êtes pas magnifique, merveilleux et spécifique en tant qu'être humain, et vous n'êtes pas les êtres les plus puissants de l'univers. Ça, c'est un rêve d'adolescent, ça ne marche pas. Boum, principe de réalité, il y a l'IA qui arrive. Et donc, on a l'occasion de construire une humanité qui, à l'intérieur même de sa puissance, en construit la négation, développe une sagesse d'être capable aussi de ne pas faire de la croissance, de ne pas juste se développer, de ne pas créer une technologie juste parce qu'elle en a la possibilité, et d'avoir un éveil un peu plus conscient à ce qu'elle réalise. Et donc, là-dedans, si on commence à être capable de ne pas être capable de, ça fait que le principe spécifique de l'humain, c'est d'avoir, certes, une sagesse, mais aussi donc une vulnérabilité. De temps en temps, je ne vais pas exprimer ma puissance. Et la conséquence de ça, c'est que si on devient une humanité vulnérable, on deviendra aussi, je crois, une humanité tendre, parce que quand on est vulnérable collectivement, on développe notre tendresse qui est la prise en compte de la vulnérabilité de l'autre. Donc, l'aboutissement pour moi d'une réflexion post-humaniste arrive à la question de la tendresse. Parce qu'on a abouti notre puissance d'exister et de réaliser, on l'a rendue absurde en créant l'intelligence artificielle, et donc ça nous permet de penser la négation de notre puissance qui nous amène finalement à recentrer notre humanité sur la tendresse. Je ne dis pas du tout que c'est ce qui va arriver. Je suis pas, j'ai beau avoir une part poétique immense, je reste un humain avec un esprit critique et une capacité à regarder ce qui se passe autour de moi. Mais donc je ne dis pas du tout que c'est ce qui va arriver, et je ne dis même pas que j'y crois, ce n'est pas la question.
Je dis que c'est arrivé, ça prendrait forcément peut-être un temps, parce que c'est tellement pas adapté
complètement
à l'état actuel de la société.
Tu m'as demandé de faire de la prospective.
Mais alors j'y vais. Ça, mais c'est intéressant.
Par contre, au-delà de mes croyances et de ce que je vois autour de moi et que je peux penser rationnellement, je fais s'accoupler ma part poétique avec une dimension éthique. Il est absolument nécessaire de raconter des imaginaires positifs autour de toutes ces transformations. Si on continue à dire à l'humanité que on est perdu écologiquement et que de toute façon le capitalisme a gagné et que on changera jamais de système, c'est ce qu'on va réaliser. On va avoir une société de gens qui sont complètement déprimés, c'est déjà le cas, qui pensent qu'il n'y a plus aucun sens à agir, et donc qui, même quand on leur dit « fais ta part », ne la font pas, même s'ils font semblant d'y croire, ne le font pas parce qu'il y a un désespoir. On a besoin de trouver des nouveaux mythes, de raconter des projets d'avenir qui soient beaux, qui nous fassent envie. C'est moralement bon et moralement important aujourd'hui d'inventer des imaginaires positifs si on veut avoir le pouillem de chance de les réaliser. Et cet optimisme-là, il est solaire, c'est-à-dire que à force de le raconter, à force d'essayer de le réaliser, même si c'est vain, on finit par créer de plus en plus de lumière autour de nous et à faire avancer le schmilblick dans le bon sens. Donc, il y a une dimension éthique à ma posture post-humaniste, c'est d'essayer de faire le plus d'action et de bruit autour de moi en essayant de contaminer des gens et surtout en essayant de m'associer à des gens qui ont aussi cet optimisme de l'avenir et qui ont des façons de le raconter qui peuvent faire sens. Parce que on n'est pas du tout. Enfin, je refuse qu'on soit à une époque où le désespoir nous gagne. On est à une époque de grande transition, et donc il faut inventer les mythes de demain, il faut inventer les nouveaux imaginaires de demain, il faut inventer les rêves de demain. I have a fucking dream.
Pas mal pour continuer. Et moi, ce qui me venait juste pour remettre mon petit grain de sel, vu que tu parles de mélanger les imaginaires et les positifs, c'est ce côté aussi. Ce qui fait de nous des humains aussi, c'est les choses qu'on ressent, et les émergences à l'intérieur de nous qu'on ne contrôle pas et qu'on ne rationalise pas, le côté intuitif aussi. Et mine de rien, tu vois, si jamais en effet, comme tu dis, on sort de ce paradigme de toute puissance et de transcender encore plus la puissance de l'humain pour une autre puissance encore plus folle, et que du coup, on arrive à être dans cette sagesse de pouvoir dire « Non, ok, ça va. En fait, on pourrait tout le temps plus, mais là, ok, on va se calmer. » Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne cherche plus la puissance et qu'on ne cherche plus l'optimisation et qu'on ne cherche plus la performance, ben, on n'a plus forcément besoin non plus de réfléchir de la même manière, parce que, mine de rien, on a de l'intelligence artificielle maintenant qui rationalise les choses de manière beaucoup mieux que la nôtre.
Qui peut, si on la construit bien, créer une abondance comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
Voilà.
Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, pareil.
Les trucs qui doivent être rationalisés et calibrés, ça peut être fait par cette partie-là de notre intelligence. Du coup, nous, il nous reste quoi? Il nous reste aussi, il nous reste justement toute la partie sensible. Il nous reste le fait que si on va au bout du bout, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on pense savoir quelque chose, en fait, on ne le sait pas. Parce que c'est toujours plus complexe, plus ci, plus là. Donc en fait, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Et que, du coup, il y a un vrai virage de paradigme où on se dit, comme tu le dis toi, la tendresse qui amène l'acceptation de la vulnérabilité, qui amène une ouverture sur, en fait, on peut vivre dans une société où les gens vont suivre des impulsions qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui de temps en temps vont les amener sur des erreurs ou pas, qui vont peut-être être calibrées ou prises en compte par cette haute intelligence comme l'intelligence artificielle qui va éviter que, comme les parents évitent qu'un enfant se tue, et ça va éviter qu'on fasse trop de la merde aussi. Et en fait, quelque part, on va peut-être pouvoir évoluer d'une manière complètement différente en tant qu'humain et en tant que société humaine.
Et
une société qui est drivée par une énergie plus de l'intuition, de juste l'exploratoire, comme ça, je la trouve très positive, quoi.
Ouais, alors il y a cette notion un peu d'intuition, d'exploratoire, j'ai moins le mot impulsion, qui donne l'impression qu'on revient à un stade d'enfance de l'humanité où on ne sait pas, où on n'a pas acquis la rationalité. La rationalité est une belle chose, c'est juste que quand elle ne sert qu'une volonté de puissance, elle devient prédative. Mais je ne veux pas qu'on abandonne la rationalité de l'humanité. Ce que je vois plutôt derrière, moi, c'est le mot contemplatif que je mets. C'est la vie contemplative, c'est-à-dire qu'on s'est habitué à penser que le travail était une institution sociale absolument nécessaire, parce que ça servait bien les puissants. Ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, quand on regarde, chez les Grecs, ils avaient des esclaves, donc c'est pas l'époque à laquelle j'ai envie qu'on revienne, évidemment, mais ils avaient des esclaves, en gros 80% de la population, c'était des esclaves qui produisaient tout ce qu'il y avait besoin, et donc ceux qui étaient considérés comme les humains, qui n'étaient pas des esclaves, pouvaient mener une vie qui n'était pas du tout oisive, qui était centrée sur les dimensions contemplatives et collectives d'une société, c'est-à-dire, en effet, la philosophie énormément pensée, le monde, penser l'humain, penser tout simplement. La contemplation qu'on n'appelait pas comme ça, mais qu'aujourd'hui on appellerait artistique, la découverte du beau, et ce qui avant était complètement inclus dans la philosophie, la découverte du beau et son exploration, et l'émerveillement qu'elle nous produit, du beau et du vrai, qui vont beaucoup ensemble aussi chez les Grecs, mais qu'aujourd'hui on mettrait dans l'art et la science, donc philosophie, art, science, qui pourrait devenir des explorations que beaucoup plus de monde réaliserait. Et puis, la dimension collective qui est le politique, mais le politique au sens réel du terme. Quand on fait travailler les gens, même 35 heures par semaine, et qu'ils s'épuisent dans un boulot inutile, enfin, qui ne les intéresse pas, ils n'ont pas envie de faire la politique le soir. La vraie politique. Du coup, à la limite, la politique devient un spectacle qui amuse les foules, mais on a une politique qui n'est plus du tout les affaires de la cité, c'est les affaires des médias aujourd'hui. Donc, là aussi, je rêve, mais si on a une société où on a un certain type de machine qui crée de l'abondance, on n'a plus besoin d'esclaves humains. Un certain type d'autres machines qui nous ouvrent des rapports au réel incroyables et que ça nous permet une exploration philosophique, scientifique, artistique du réel élargie. Donc une vie contemplative encore plus riche que ce qu'on a toujours pu avoir. Et qu'on n'a plus vraiment besoin de travailler, j'ai pas peur de ça, je trouve que c'est un horizon qui est plutôt positif, le travail n'est pas une nécessité. L'effort pour justement réfléchir, pour construire, pour faire société ensemble, oui, des efforts ou du travail au sens de l'effort, oui.
De l'effort physique.
Voilà, ou l'effort physique, etc.
L'effort n'est pas un problème, c'est sûr.
Mais le travail,
il est dans le contexte du travail.
Voilà, le travail, il est dans un bureau ou sur un chantier toute la journée. Je ne suis pas certain que ça soit une... Enfin, y en a qui vont me dire que ça permet à plein de gens de se réaliser, mais uniquement parce qu'ils ont appris que ça et que c'est ce qui fait leur, leur possibilité. S'ils ont d'autres possibilités, ils se réaliseront par d'autres choses. Donc je pense tout à fait qu'une société sans travail telle qu'on le connaît aujourd'hui, sans l'institution travail, l'institution capitaliste du travail, est vraiment possible et même désirable, et qu'il y a plein d'autres choses que l'humain fera et qui ne va pas du tout s'ennuyer. Il s'ennuiera s'il est immortel. Ça, c'est le pire qui puisse nous arriver. L'immortalité, c'est vraiment justement pousser la volonté de puissance au maximum, alors que justement, la question de la... Un exemple typique de... Un endroit où il faut avoir la puissance de nier sa propre puissance, c'est quand on va être capable d'être immortel, c'est presque sûr, en termes scientifiques, et je pense qu'il ne faut pas qu'on le fasse. Garder cette vulnérabilité de la mort, c'est à mon avis ce qui va conserver le sens d'une existence, la beauté d'une existence, l'envie de vivre, etc. Sinon, on va vraiment faire que s'emmerder. Par contre, enlever le travail et développer un nouveau modèle de société où le contemplatif, les activités de l'esprit, les activités créatives et... parce que le créatif, même si des machines peuvent être créatives, on peut toujours être créatif, on créera des choses différentes, c'est tout. Le politique reviennent vraiment au centre et ne sont plus des activités à la marge du travail qui sert l'économie, ça me paraît être envisageable. Mais ce n'est pas encore... Enfin, c'est pareil, c'est le projet optimiste. Mais je ne suis pas le seul à le raconter. Hein. Même un gars comme Sam Altman, qui est derrière, qui est le CEO de OpenAI, derrière ChatGPT, etc. Quand tu lis, il a écrit un article qui s'appelle « La loi fondamentale de l'IA », où il explique comment l'intelligence artificielle, en gros, c'est un peu une loi de Moore de l'intelligence artificielle appliquée au travail. Tous les ans, elle va diviser par deux la valeur de l'humain au travail jusqu'à arriver à une valeur nulle de l'humain au travail, et où l'intelligence artificielle sera... bien plus performante que l'humain sur tout ce qui fait le travail aujourd'hui, quasiment. Donc, en effet, il faut vraiment réinventer une société, et c'est drôle parce qu'il a beau être complètement dans le système, etc., il a les ressources quand même intellectuelles, c'est vraiment pas un garçon imbécile, hein. Il a les ressources intellectuelles pour penser une prospective où il imagine plein de mécanismes, et il va jusqu'à des mécanismes très fins, de quelles taxes il faut mettre en place, quelles lois, etc., comment on fait ceci, cela, pour arriver à une société qu'il appelle post-capitaliste, où le capitalisme a abouti son projet. Donc pour lui, ce n'est pas une remise en cause du capitalisme, c'est le capitaliste qui aboutit son projet, parce qu'aujourd'hui, le capitalisme crée des inégalités et donc n'est pas abouti. Mais pour lui, un capitalisme qui aboutit son projet, c'est un capitalisme qui n'a plus besoin de capital, justement, qui permet une création de valeur par notamment de l'intelligence artificielle abondante, et qui est organisé autour d'un système de redistribution qui permet à l'humain de s'affranchir du travail. Donc, c'est quand même intéressant que le CEO derrière ChatGPT qui fait le buzz de l'IA en ce moment ait une vision prospective qui va dans ce sens-là. Et pareil, évidemment, il a tout intérêt à vendre un projet de société qui est beau avec l'IA, c'est aussi son intérêt économique. Mais les mécanismes qu'il propose ne sont pas débiles. C'est vraiment c'est une pensée. Donc, et puis, plein d'autres... Enfin, je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, surtout qu'il oublie vraiment la dimension écologique, donc on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui, mais qui pour moi, participe à, cette, à un moment, cette prise de conscience que la puissance de ne pas est très importante. Elle va aussi arriver, elle va arriver par la blessure narcissique que va nous produire l'IA, mais aussi par le principe de réalité et de l'écologie, ce qui est une bonne chose. Donc, lui, il n'en parle pas du tout. Moi, j'intègre vraiment ces deux notions-là. Il y a plein d'autres personnes qui essayent de penser à un avenir. On entend de plus en plus de nouveau parler du revenu universel, du système de redistribution de la valeur, des choses comme ça, qui à un moment vont devenir beaucoup moins absurdes que ce qu'ils étaient il y a 10 ans, où c'était un truc d'allumer, en fait. Petit à petit, ça va devenir une évidence, ce type de... Enfin, les systèmes de redistribution généralisés et l'affranchissement de la notion de travail, je crois qu'il n'est pas possible à un moment qu'on la vive pas. Donc ça, il faut s'habituer à la pensée. Après, le fait que ça produise une société contemplative, collective, un humanisme fondé sur la tendresse et sur la non-puissance, etc., ça, c'est mon regard poétique. C'est beaucoup moins mon regard analytique. Mais ce n'est pas grave, c'est l'histoire que je veux raconter à partir de mon regard analytique.
Qui donne aussi l'énergie au quotidien.
Voilà, et qui donne une posture à ce regard analytique.
De se lever et faire des choses, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Mais voilà, il y a vraiment les deux dimensions. Le regard analytique de ce qui, lui, a priori, ne peut pas ne pas arriver. On ne lit jamais l'avenir, mais a vraie grosse probabilité d'arriver. Ça semble inscrit dans le mouvement des choses pour l'instant. Et puis, il y a les éléments plutôt de l'ordre des imaginaires à construire qui donneront la saveur à cet avenir-là. Et moi, ma saveur, ce n'est pas la plus crédible, mais
c'est celle que je trouve belle, donc c'est celle que j'ai envie de raconter.
Merci Fabien pour cet échange.
Merci à toi.
Et merci pour ce livre aussi, donc Hypercréation. Et on va bien explorer autour du livre, donc c'est top.
Voilà, et du coup, pour approfondir, si personnes qui ont écouté le podcast veulent lire le livre, bah, il est disponible, alors, soit sur Amazon pour ceux qui passent par la plateforme, donc on le trouve sous le nom Hypercréation, soit sur le site de la maison d'édition. Alors, il est disponible dans quelques librairies, mais au Canada, parce que mon éditeur est franco-canadien. En France, il sera sûrement disponible dans une ou deux librairies par la suite, mais pour l'instant, on peut le trouver sur le site de l'éditeur, donc Nolio Sine Verba, ça permet de ne pas passer par Amazon pour ceux qui préfèrent ne pas.
Et je partagerai ces liens-là. Ouais. Est-ce que tu as des actualités en lien avec le livre, justement, ou autre que le livre, prochainement?
Ouais, alors...
Continue les explorations de cette discussion d'une heure 15.
Carrément. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, je commence un gros travail sur un livre d'art IA, qui est un vrai livre d'art, donc qui présentera entre 15 et 20 artistes, a priori, et 15 et 20 œuvres fondées sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas du Midjourney, etc. Ça, je me fous de faire un catalogue Midjourney. C'est des œuvres qui montrent que l'intelligence artificielle amène une nouvelle matière première, qu'on appelle, quand on est dans le milieu, les espaces latents. Si tu veux, c'est les espaces mathématiques de haute dimension qui permettent d'exprimer des régularités à partir des données qu'on n'était pas capable d'explorer avant. Donc, on matérialise des éléments, par exemple, de représentation collective, des éléments collectifs qu'on retrouve dans l'art, etc. Et là, il y a toute une nouvelle matière première que les artistes s'évertuent à explorer, qui est incroyable et qui ne fait pas uniquement que rendre les anciens arts faciles d'accès par les outils d'IA, mais qui permet d'imaginer vraiment un nouvel art, que j'appelle l'art latent, justement, l'art de toutes les représentations latentes qu'on est capable de mettre en forme et de matérialiser. Et donc, le livre aura ça comme fil rouge d'explorer à la fois. Il y aura un édito un peu théorique sur ce qu'on peut appeler art latent, et puis 15 à 20 artistes qu'on est en train de curater avec la directrice artistique avec laquelle je bosse sur le livre, qui s'appelle Caroline. Elle sera co-autrice du livre. L'idée, voilà, c'est de montrer un peu le travail de ces artistes avec ce fil rouge des espaces latents et de cet art que j'appelle art latent, pour voir qu'il y a vraiment un nouvel art qui apparaît. Donc ça, c'est le projet, un des projets en cours. Il y a mon projet d'assistant virtuel créatif qui est d'interfacer plusieurs types d'intelligence artificielle autour d'une interface web qui permette aux créatifs d'entrer dans des dialogues très riches avec l'intelligence artificielle pour explorer sa propre créativité, ses idées, avoir des occasions d'aller de dissociation et d'aller chercher des connexions éloignées, etc. Donc plutôt de l'ordre de l'outil pour le créatif. Donc j'avais fait la version pure POC, Proof of Concept, lors de la soirée de lancement du livre. Et puis je commence à travailler sur la V1. Il y a un projet d'œuvre d'art sur lequel je travaille, une œuvre d'art je reparlerai plus tard. Pour l'instant, je suis en train de mettre en place le projet, notamment avec un labo de recherche, parce qu'il y a tout un aspect scientifique dans l'œuvre, et aussi une chercheuse en éthique, parce qu'il y a une dimension liée à l'éthique dans l'œuvre. Mais il y a quand même d'abord une dimension plastique, esthétique, artistique, qui interroge justement les espaces latents. Peut-être que ma propre œuvre sera dans mon propre livre. On verra si je vais jusqu'à ce point d'égocentrisme, je ne pense pas. Je pense que je vais éviter de mettre ma propre œuvre dans le livre. Ça serait peut-être un peu mal lu. Et surtout, elle ne sera pas prête. C'est un gros projet artistique, peut-être sur deux ans et demi, okay, pour arriver à la finalité qui serait exposable. Mais tu en entendras reparler. Parce que même peut-être que tu pourras participer. C'est une œuvre, il y a besoin de 1000 participants dans l'œuvre. Donc tu pourras tout à fait, si tu souhaites, participer. Et voilà. Et après... d'autres projets, j'ai toujours ce projet lié au ce qu'on appelle le prompt engineering, l'ingénierie de requête, l'art de bien parler à des IA. J'explore les possibilités créatives du prompt engineering, comment parler à des IA pour les mettre dans des logiques créatives, pour qu'elles deviennent des challengers créatifs, des assistants créatifs, etc. Donc ça, je vais continuer. À la rentrée, je vais reprendre, j'ai déjà fait 2 webinars, je vais reprendre ces webinars-là ça de façon complètement gratuite pour et par la communauté, développer tout le champ de la créativité avec des outils d'IA, donc là avec des cyborgs de type 1, des IA génératifs, tout ce qui est de l'ordre de l'outil.
Donc voilà un petit peu assistant okay. créatif virtuel et démarche de prompt engineering ouverte pour que tout le monde puisse faire de la créa avec ces outils-là. Un autre livre vraiment orienté art avant d'écrire la suite philo d'hypercréation. Et puis une œuvre que je commence à mettre en place qui sera une œuvre collective, collaborative et art-science autour justement de cet art-là. Voilà, plein de choses.
Et ben, je partagerai tous les liens pour qu'on puisse suivre ça. Merci Flavien pour cet échange, c'était très cool.
Merci à toi, un grand merci d'être venu.
À bientôt.